Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, soyez le bienvenu. Vous êtes le candidat du Front de Gauche à la présidentielle. On va essayer de mieux vous cerner ce soir, détailler votre programme. Est-il solide? Est-il cohérent? Question aussi sur votre parcours, votre stratégie et puis sur votre personnalité, votre tempérament qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors voici ce qui vous attend. Toute l'équipe est là. Nathalie Saint-Cricq d'abord et son sourire en coin. Elle va vous confronter à vos mots et à vos images. François Langlais ensuite pour l'analyse point par point de votre programme économique. Ce sera ensuite le tour de la séquence pure politique de Fabien Amias. Viendra alors l'heure du duel, le face-à-face. Et ce soir, c'est un grand patron du CAC 40 qui nous rejoindra. En tout cas, il l'était encore il y a très peu de temps. Jean-Louis Beffa, aujourd'hui président d'honneur de Saint-Gobain. Et puis pour tirer les leçons de l'émission et en guise de conclusion, eh bien nos deux examinateurs nous rejoindront. Ils vont vous écouter, écouter les vraies réponses et les faux fuyants, s'il y en a. Ils viendront exercer leur droit de suite et nous dire si vous les avez convaincus. Il s'agit d'Hélène Jouan, directrice des magazines de France Inter, et d'Hervé Gattegno, rédacteur en chef au magazine Le Point. Le Point qui titre cette semaine « Sarkozy, le complexe de Zorro ». Voilà donc le programme. D'abord, en guise d'introduction, j'ai trois questions à vous poser et un petit questionnaire à vous soumettre. C'est une nouveauté que vous allez inaugurer. Question sur la dynamique de votre campagne d'abord, telle qu'elle se reflète dans les sondages. Beaucoup pensaient, notamment en l'absence d'Olivier Besancenot, que vous pouviez casser la baraque, entre guillemets. Eh bien, voici les intentions de vote mesurées par Ipsos depuis le printemps dernier. Vous êtes en gros entre 5 et 8%, donc vous êtes le cinquième homme de cette campagne, mais ça ne décolle pas. On traverse quand même une très grande crise. Le modèle libéral n'a jamais eu aussi mauvaise presse. La social-démocratie elle-même est en crise, mais ça ne bouge pas vraiment pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas loin, très loin de vos espérances d'il y a quelques mois ?
Non, la tâche était rude, et précisément, en cela même que le moment est très pénible. Eh bien, les gens se disent, on l'aime bien, on aimerait bien que ça se passe comme il nous le propose, mais est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce qu'on va y arriver? Et puis, il y a une sorte de rouleau compresseur qui s'exerce sur les esprits, qui les pousse à la résignation et à la peur. Et mon travail avec le Front de Gauche et les partis qui le constituent, c'est d'appeler à la résistance, d'appeler à la dignité, à la fierté de ce que l'on est dans ce pays, pour pouvoir reprendre son destin en main. Voilà, bon, alors c'est un travail.
C'est pas surprenant quand même qu'en temps de crise, et de crise profonde tout de même, la gauche de la gauche, disons, c'est-à-dire celle qui propose une sorte de rupture, ne trouve pas plus d'écho?
Ben, non, d'abord, hein, la gauche de la gauche, c'est pas moi. Moi, je suis de gauche, même assez traditionnellement de gauche.
Ce sont les autres. La gauche, d'après
vous. Oui, mais les autres qui sont devenus un peu étranges, qui sont devenus tellement éloignés des marqueurs traditionnels de la gauche qu'on ne s'y reconnaît pas. Donc, je dis ça pour la clarté, simplement. Je ne veux pas faire croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas de l'extrême gauche. Je suis un militant qu'on connaît, avec ceux du Front de Gauche. Vous connaissez les forces qui constituent le Front de Gauche. Elles sont nombreuses. Vous ne pouvez pas parler d'extrême gauche à notre sujet. Maintenant, il n'y a que les gens qui ont une vision romanesque de l'histoire, qui croient que lorsque ça va mal, alors tout soudain, les masses descendent dans la rue avec des piques et des fourches. Non, ça ne se passe pas comme ça, les révolutions. Il faut d'abord, il y a une accumulation qui se fait, elle est en train de se faire, de problèmes, et puis tout d'un coup, un petit facteur très concret déclenche un mouvement. Et les gens ne partent pas pour exécuter un programme idéologique, ils se mettent en mouvement pour régler des problèmes concrets. Ils en ont assez que tout soit dans la pagaille, que le pays soit plus riche que jamais et qu'il n'y ait de l'argent pour rien, que tout le monde tire la langue alors que l'on voit des fortunes s'accumuler. Et les gens ne demandent qu'à régler des choses simples. Comment faire pour qu'il y ait un instituteur dans la classe en face de mon enfant? Comment être soigné quand on est malade? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partir à la retraite quand on n'en peut plus? Pourquoi faut-il subir ce discours grotesque qui dit, puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps? Mais allons, le monsieur, madame, tout le monde se dit, mais enfin, on vit plus longtemps parce que justement, on travaille moins longtemps, on s'use moins à la tâche, comme ont été usées les générations précédentes. Donc les gens excédés se disent, ben je m'y mets. Et c'est précisément ce que je leur dis de faire. Prenez le pouvoir.
Et ça fait confiance à avant le 22 avril, date du premier tour, d'après vous.
Alors, là, c'est la bonne question. Parce que l'histoire est en mouvement, monsieur Pujadas. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, inéluctablement, le peuple français va venir sur la scène. Aujourd'hui, il y a une grande perplexité. Vous savez, il y a 20% de gens qui voteront à droite, 20% de gens qui voteront à gauche, en se bouchant le nez, en se bouchant les oreilles, tout. Ils le feront, par famille, par tradition, par culture. Et puis vous avez une masse immense de gens qui ne sont pas au centre et qui se disent « mais que faire pour bien faire ?» Ils ne se référeront pas aux étiquettes. Ils regarderont un peu les personnages en se disant « je me méfie ». Et ils vont essayer de voir où leurs problèmes concrets. Est-ce que mon salaire va augmenter? Est-ce que je vais pouvoir être... C'est ça qui préoccupe les gens. Cette masse immense va se mettre en mouvement. Parce que voyez-vous, M. Pujadas, ce qui me donne un optimisme à tout craint, c'est que c'est fini le temps du capitalisme que nous avons connu. C'est fini. Pendant 10 ans, 20 ans, nous avons tout subi. Et pensez à ces milliers de syndicalistes, de personnes qui ont résisté. On a tout subi, on s'est moqué de nous. On a dit, mais enfin, vous datez, regardez, si chacun n'en fait qu'à sa tête, si chacun peut profiter, alors tout le monde ira mieux. Et tout le monde maintenant comprend que tout ça, c'était des mots, du blabla. Et que la vérité, c'est qu'on est libre quand on est dans un collectif heureux, qu'on ne peut pas être heureux tout seul dans un océan de malheur. Et que donc, le devoir de tout être humain, c'est de se préoccuper à ce qui arrive à son semblable. Voilà le message du Front de Gauche, c'est pour ça que ça s'appelle, le programme s'appelle « L'humain d'abord ».
Alors, vous voyez, on l'a lu et on va en parler. Deux questions d'actualité.
On va voir si vous l'avez bien lu.
Deux questions d'actualité d'abord. C'est l'un des débats de ces derniers jours. Êtes-vous pour ou contre la suppression ou la modulation, comme l'a finalement dit François Hollande, du quotient familial ?
Eh bien écoutez, quand la question sera posée clairement, je répondrai clairement. Parce qu'on a commencé par dire qu'on le supprimait, puis qu'on le modulerait. Je n'ai pas l'intention de courir derrière les dernières trouvailles de chacun des communicants de M. François Hollande. Voilà. Donc nous verrons. Je dis seulement une chose à mes amis socialistes, qui sont pour beaucoup d'entre eux des amis et des camarades. Attention, la pensée de gauche, c'est de proposer des droits universels. Si vous commencez à découper en petits morceaux la population, on donne un petit peu à celui-ci. Si vous mettez partout des différences, de la discrimination positive, à la fin, tout le monde se regarde en coin et se dit « pourquoi vous ?» Vous allez profiter et c'est moi qui vais payer. Non, c'est pas comme ça qu'on
procède. On comprend que vous êtes plutôt contre cette manière de procéder.
C'est-à-dire que je préférerais que l'on aille autrement sur la question des impôts, que par exemple on crée 14 tranches d'impôts sur le revenu, il n'y en a plus que 5, que l'on aille à tout prendre à la dernière tranche, c'est-à-dire au-delà de 30 000 euros par mois de revenus, je ne parle pas de capital, que l'on prenne tout, ça c'est plus juste comme méthode d'imposition.
Ça aussi on en parlera.
Oui,
ça
mais
aussi,
eux, ce qu'ils comptent faire, c'est redistribuer toujours avec la touillette, on prend ce qu'il y a déjà, on donne à l'un, on
enlève à l'autre. Vous dites, c'est pas la bonne manière de procéder.
Écoutez, si vous voulez vous coller à dos les classes moyennes qui ont déjà, qui n'en peuvent déjà plus, vas-y, continuez quoi.
D'accord. Question plus politique. Marine Le Pen a apparemment moins de 300 signatures. Ce serait un scandale si elle ne pouvait pas être candidate ?
Oui. Écoutez, moi, pendant des années, j'ai milité tout seul dans un désert avec quelques autres quand même. Il y avait bien du monde. Il y avait le journal Charlie Hebdo, il y avait un certain nombre d'associations philosophiques dans le pays qui disaient, écoutez, si ces gens sont dangereux pour la démocratie et la République, ce que je crois, il faut faire comme nous avons fait dans les années 30. Pourquoi sommes-nous le seul pays qui n'a pas eu de régime fasciste ou nazi, alors que tous les pays qui nous entouraient, voilà, briser les reins à temps. On a interdit les ligues factieuses. Ils ne s'en sont jamais remis, car il faut s'organiser pour faire avancer ces idées de haine. J'ai défendu l'idée qu'il fallait les interdire. J'ai entendu des cris de putois de tous les côtés. On ne va pas régler le problème comme ça. Et puis tout le monde, en hypocrite, sort Madame Le Pen à chaque élection pour faire du maintien de l'ordre. Le vote utile, ça arrange la droite, comme ça tout le monde vote Sarkozy. Le vote utile, ça arrange la gauche, comme ça tout le monde est obligé d'aller voter pour le candidat socialiste. Mais on les laisse faire. On leur donne de l'argent, même. L'argent des impôts, puisqu'ils sont subventionnés, comme tous les autres partis. Alors maintenant, moi j'en ai assez de faire celui qui est là, préposé aux indignations de commande. Moi je les combats frontalement, et je vous dis, monsieur Pujadas, à la fin ça va se terminer entre eux et nous. Parce qu'eux sont les chiens de garde du capital, et nous sommes ses adversaires.
Mais sur la question, vous jugeriez que ce serait un scandale si elle ne pouvait pas être candidate à cause des 500 signatures?
Mais il faudrait savoir, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à toutes ces belles personnes.
Vous avez une idée là-dessus?
Mais bien sûr, je viens de vous répondre. Je trouve qu'il ne serait pas normal qu'elle ne puisse pas être candidate.
Et
je trouve qu'il n'est pas normal que des forces politiques constituées ne puissent pas être candidates. Mais si vous me demandez si je suis content qu'elle soit candidate, je vous réponds non.
C'est effectivement une autre question. C'est une autre question. Mais est-ce que ça signifie que vous seriez prêt à dire à vos élus locaux, à vos maires, aux maires du parti de gauche, si on vous demande votre signature...
Parce que c'est le Parti communiste qui a le plus grand nombre de,
voilà,
de maires.
Et même du Parti communiste, du Front de Gauche. Est-ce que vous seriez prêt à leur dire, si on vous demande, si Marine Le Pen vous demande votre signature, vous pouvez lui donner?
Non, non. Bien sûr que non, parce que c'est à moi qui vont donner la signature, parce que moi j'en ai besoin, je vous le rappelle au
passage. Mais vous les avez déjà, j'imagine.
Hein, oui, non, mais oui.
Vous les avez déjà, j'imagine.
D'accord, mais vous êtes sympa, vous. Mais
Vous les avez pas encore?
Eh bien, ça, je vous le dirai pas. Hein, parce que, comme ça, mes affaires sont bien organisées. Et on voit en général trop ce que je pense, et je veux pas qu'on le voit. Donc, moi, je ne dirai certainement pas à un élu du Front de Gauche, et d'ailleurs, si je lui disais, je me ferai envoyer balader, tu vas parrainer l'extrême droite.
Mais vous ne lui interdiriez pas non plus.
Mais moi, si on m'avait demandé si j'avais été en situation, je les aurais interdits. D'accord? Je dis au Front National que nous sommes en guerre démocratique, nous, parce que nous n'aimons pas les autres guerres, hein, avec eux. Nous ferons donc tout pour les réduire à néant. Tout. Ce qui passe avec les armes de la démocratie. Si jamais ils pointent le bout du nez à menacer une seule liberté ou poser un seul problème, nous leur tomberons dessus.
D'accord. Voilà. Juste avant de commencer, le petit questionnaire de l'Élysée. Tous les candidats qui vont passer ici seront désormais soumis pour mieux les connaître. Ce sont 5 questions simples et on attend, s'il vous plaît, des réponses courtes. Première question, la voici. Si vous étiez élu président de la République le 6 mai prochain, à qui dédieriez-vous votre victoire?
Au peuple français, aux innombrables têtes dures qui se sont rassemblées pour m'amener jusque-là.
Si vous étiez élu président de la République le 6 mai prochain, où iriez-vous fêter votre victoire ce soir-là?
Pourquoi vous m'avez pas mis une cravate rouge, hein?
Ça, c'était pas compris dans les questions.
Ben, je vais vous répondre. Quand la gauche gagne, qu'est-ce qui se passe? Depuis que la gauche est la gauche, eh ben, elle va à la Bastille, parce que la première fois qu'on y a été, c'était pour la prendre. Donc on y retourne, on y était en 81, et j'y étais avec Marie-Georges Buffet, qui est là derrière moi, en 2005, quand la gauche a gagné, avec le non. Voilà. Donc on va à la Bastille, il n'y a même pas besoin de réfléchir, on connaît le chemin, c'est tout seul.
Troisième question, quel serait votre premier déplacement, votre premier voyage de président de la République, si vous êtes élu?
Ah, c'est dur. Moi, mon goût me porterait au symbole. Mais ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse. Les symboles, pour moi, ça serait le plateau des Guillères ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Voilà ce que je vais faire. Je monte dans l'avion et s'ils le permettent, je vais en Algérie. Et de cette manière, je donne une grande indication. La guerre est finie. Maintenant, on s'aime. Et pas aux Algériens, je le dis. Je le dis à tout le Maghreb, où il y a 100 millions de personnes avec qui nous avons en commun une langue, le français, qui ne s'est jamais tant parlé des deux côtés des rives de la Méditerranée comme maintenant.
La guerre de décolonisation, vous voulez dire?
La décolonisation, c'est fini. On a terminé. On a tourné la page. Maintenant, on est dans une autre période. Nous vivons ensemble et nous avons ensemble. Voilà ce que je veux dire aux Français. D'abord, pour faire reculer la haine et toutes ces bêtises, nous avons ensemble des enfants, des petits-enfants, des tontons, des tatas. Nous sommes une famille. Nous, les Maghrébins européens qui sont revenus ici, les Maghrébins qui viennent de là-bas, avec qui nous avons la nationalité parfois en commun, comme dans combien de cas, nous sommes une même famille. Et la France, elle a quelque chose à dire de ce côté-là. Pardon de vous dire, je vais encore choquer du monde, qu'il y a plus de choses en commun de ces deux côtés de la rive de la Méditerranée que nous en avons avec le lointain Est de l'Europe. Nous avons en commun une civilisation, voilà. Et moi, je veux porter ce message.
Voyage en Algérie,
on vous entend. Oui, s'ils le permettent, bien sûr. Je ne pourrais pas débarquer comme ça, ça ne se fait pas.
Quatrième question. Votre trait de caractère qui vous agace le plus, et disons pour préciser, votre défaut qui serait le moins compatible avec la fonction présidentielle?
Bon, tout prendre à la passion, ou bien qu'on voit trop sur mon visage ce que je pense. Mais là, je ne veux pas exagérer, parce que je sais aussi bien jouer de tout ça. Oui, tout prendre à la passion.
Alors, à l'inverse, la qualité dont vous êtes le plus fier et dont vous pensez qu'elle serait le meilleur atout pour exercer cette fonction présidentielle?
Soit le goût de l'humour, cher monsieur Pujadas. Parce que je crois que les esprits se marquent plus avec un sourire, une touche un peu saillante, qu'avec d'interminables larmes. Et puis, l'humour, c'est toujours un petit entraînement à l'autodérision qui permet de ne pas avoir la tête qui enfle. Voilà. Mais sinon, bon, ce dont je suis le plus fier, s'agissant de ce que je fais, c'est évidemment de savoir écrire.
Bien.
Enfin, j'espère.